Jean-Luc Béchalet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le cofondateur de PrimeView et avec Pierre Sabatier, vous avez écrit La Chine, une bombe à retardement. Alors, un livre d'études hein, sur ce pays effectivement gigantesque avec cette croissance exponentielle jusqu'à, on va dire, ces dernières années, mais même encore en ce moment, la croissance reste spectaculaire. Vous avez même écrit un roman sur la Chine, alors on peut dire que vous êtes concentré sur la Chine, à la face cachée. On va pas parler du roman aujourd'hui, on va parler de cette étude sur cette Chine. Pourquoi dire aujourd'hui que finalement il y aurait un problème en Chine? On a l'impression que pour l'instant la croissance est toujours là en Chine.
Alors, si on regarde uniquement à très court terme, déjà, les indicateurs avancés sont extrêmement mal orientés et la difficulté pour travailler sur le monde chinois, c'est les statistiques qui sont systématiquement biaisées. Donc, ce qu'on essaye de regarder, c'est la production d'électricité qui vous donne une bonne tendance et on la compare avec la production industrielle. Et donc, les derniers chiffres qui ont été publiés, qui sont toujours en rythme annuel de façon à lisser au maximum les à-coups, on est sur un rythme de 0% en annualisé, alors que la production industrielle est annoncée supérieure à 9%. Donc visiblement, le décrochage est assez violent. Et quand vous regardez les indices avancés, et notamment celui d'HSBC, qui est beaucoup plus significatif, là encore, avec pas de manipulation de chiffres, ça fait plus de 7 mois que la production industrielle est en dessous de 50%. Donc on est sur une récession hein, industrielle. Et lorsque la Chine vous dit qu'elle fait 11%, probablement qu'elle fait 12 ou 13, lorsqu'elle vous annonce, comme elle l'a fait en début d'année, que ça serait autour de 7,5%, probablement qu'on est plutôt dans des zones de 5%. Donc on a un décrochage qui est en train de se faire. Et l'espoir réside toujours, comme ça s'était passé en 2009, avec à la suite des événements de la faillite de Lehman Brothers, où l'ensemble du monde s'était rigidifié. Donc vous aviez en face le Japon qui baissait de 8% et la Chine, comme par miracle, alors que c'est le premier exportateur mondial, c'est là où plus d'un quart de la production industrielle est réalisée, la Chine faisait plus 9%. Alors d'où venait ce fameux miracle? C'est pas difficile, c'est une relance keynésienne, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Donc tout ce qu'on peut voir un peu partout sur la planète où les relances ont été initiées à la suite de ces chocs venant des États-Unis.
Donc des plans massifs
voilà.
d'investissement dans
Alors,
l'immobilier, infrastructure.
Et bien entendu, tout
ouais.
ça à crédit. Donc on a sur la seule année 2009, pour expliquer cet écart entre deux pays qui sont tirés par l'offre, comme le Japon est tourné vers l'extérieur, l'un moins 8, l'autre plus 9, vous avez eu 30% d'injections sous forme de crédits divers avec des infrastructures et autres, et donc une bulle d'investissement qui était déjà là, mais qui s'est accentuée. Donc, si on peut faire une comparaison et comprendre ce qui est en train de se passer en Chine, on peut prendre l'exemple espagnol, qui est plus proche de nous, qui a été beaucoup plus analysé par pas mal de personnes. L'Espagne, au haut de sa bulle dans l'immobilier, donc l'Espagne, c'est quoi? C'est du béton. Donc, c'est de l'acier, ce sont des routes, ce sont des immeubles. Ça représentait l'immobilier d'habitation à peu près 13% du PIB. La Chine, c'est 15% du PIB. On est passé en ligne droite de 4% du PIB à 15% du PIB. Et donc, vous avez sur ce pays, l'Espagne, une monnaie, la pesetas, qui a été finalement indexée sur le Deutsche Mark. Et pendant pas mal d'années, on a imaginé que le Deutsche Mark et la pesetas, c'était la même monnaie. Sauf que le risque industriel, la prime de risque qui était appliquée avant l'introduction dans la zone euro, était de l'ordre de 400, 500, 600 points de base. Donc, du jour au lendemain, vous annulez cette prime. Et donc, il y a une orgie de crédit qui s'est constituée sur l'Espagne, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Sur la Chine, c'est exactement le même phénomène, mais là, au lieu de se payer sur le Deutsche Mark, la monnaie, le yuan chinois, s'est payé sur le dollar. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine a décidé, en suivant l'évolution du dollar, de perdre la main sur sa politique monétaire. Et donc, elle a eu des taux d'intérêt, à l'exemple de ce qui s'est passé donc en Espagne, avec des primes de risque qui se sont comprimées en comparant finalement le risque chinois par rapport au risque américain. Et sachant que là-dessus, la problématique chinoise avec des problèmes d'hyperinflation, alors qu'il y a fondamentalement des problèmes de déflation, vous avez une politique monétaire qui n'est pas du tout adaptée à l'environnement. Donc vous avez une croissance qui était en moyenne de l'ordre de 9% avec des taux d'intérêt qui étaient légèrement négatifs.
Ce que vous dire, c'est que ce système-là, ce système de finalement d'usine du monde, hein, qu'on qualifie souvent la Chine comme l'usine du monde, n'est pas un système viable. C'est un système qui peut connaître des à-coups, pas forcément d'ailleurs
voilà.
Sombrer complètement, mais peut connaître des à-coups. C'est-à-dire qu'il n'est pas linéaire, ce
voilà,
système.
On n'a jamais vu, parce qu'on a des exemples passés avec la Corée du Sud, avec le Japon. On connaît les conséquences aujourd'hui de la constitution d'une bulle immobilière et sur les marchés financiers. La problématique est relativement. Alors la grande différence de la Chine par rapport à ces pays qui étaient beaucoup plus avancés, c'est qu'il y a des réservoirs sur longue période de richesses qui sont beaucoup plus importants. Mais à très court terme, ça fait 30 ans que la Chine a fait plus de 10%, et bien entendu en manipulant, en utilisant tout à sa disposition, et donc une allocation de l'épargne probablement la plus mauvaise de l'histoire.
Est-ce que ce qui s'est passé en Europe, alors particulièrement en Europe, on pourrait dire aux États-Unis aussi, puisqu'il y a eu cette crise subprime et puis crise économique par la suite, ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce ralentissement finalement de la zone euro des États-Unis a eu un impact finalement à accélérer ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire ce ralentissement, ces problèmes chinois.
Alors la première phase avec les subprimes, puisqu'ils ont injecté massivement de l'argent, donc tout ça a été masqué, mais n'a fait qu'accentuer la problématique d'un pays où l'investissement atteint près de 58% du PIB. Et quand on analyse de près d'où proviennent les bénéfices, et donc là on voit très bien que c'est une financiarisation comme jamais, avec exactement la même histoire du hors-bilan comme on a pu l'avoir aux États-Unis, avec du crédit qui est fait dans n'importe comment. Si vous prenez l'ensemble des bénéfices pour l'année 2011, plus de 50% proviennent des banques. Et si vous regardez les secteurs qui étaient censés, par exemple l'automobile, qu'on signale comme un secteur où la production a quasiment plus que doublé au cours des dernières années, ça ne représente que 3% des bénéfices. Donc vous avez un système où cette financiarisation, quand vous prêtez, c'est un peu comme ça s'est passé à la belle époque sur le crédit lyonnais, c'est-à-dire que dans un premier temps, avec des marges qui sont assurées, entre le dépôt le taux de crédit et le taux de dépôt de l'ordre de 350 points de base, même si aujourd'hui ils sont en train de modifier, donc de mettre un peu de concurrence dans le système. Facialement, vous faites des bénéfices. Puis après, la question de savoir si les projets, c'est-à-dire toutes ces autoroutes qui sont vides, ces aéroports qui sont sous-exploités, ces lignes de TGV seront-elles remplies ou rentables. Donc dans un premier temps, comme pour l'Espagne, vous bétonnez. Et après, la deuxième chose, est-ce que la croissance sera au rendez-vous derrière? Est-ce que tous ces projets sont rentables? Et là-dessus se rajoute la problématique des provinces qui ont tiré. Et là, on retrouve encore le modèle espagnol, c'est-à-dire qu'énormément de déficits de paiement de structures de l'État ont été faits à partir des transactions sur l'immobilier. Et donc, ces transactions sur l'immobilier ont fondu. Et en face, vous avez du déficit. Donc sur la Chine, vous avez exactement la même chose dans les provinces, et plus de 50% des recettes proviennent de la vente des terrains. Et là, les derniers chiffres qu'on a pu avoir, que ça soit en rythme annuel, donc sur la production de crédit, on est dans des chutes de 45%. Sur les ventes de terrains, les derniers chiffres, on était dans les derniers chiffres de baisse de 80%. Donc on a une baisse brutale. Et là encore, le phénomène vient se rajouter, le phénomène de la zone euro, avec les difficultés qu'on connaît. Et donc, comme le disait Warren Buffett, c'est lorsque la vague se retire qu'on voit les gens qui sont à poil.
Alors on pourrait dire que la Chine a encore des réserves en devises, bien sûr, donc a encore les moyens de refaire ce qu'elle a déjà fait.
Alors, c'est exactement le raisonnement que font pas mal de gens, se disant pourquoi ils ne referaient pas comme en 2009 et on mettrait sur la table des quantités d'argent aussi impressionnantes. Et alors là, on atteint ce qu'on appelle la finitude, et je vais vous expliquer ça de façon très, très simple, de façon arithmétique. Lorsque vous passez de 100 à 200, vous faites 100%. Pour faire encore 100%, vous êtes obligé de passer de 200 à 400. Et quand vous êtes à 400, pour faire encore 100%, vous êtes obligé de passer de 400 à 800. Et donc là, vous arrivez où, à un moment, l'élément clé qui a fait la croissance, c'est-à-dire les exportations, sont en train de s'effondrer, mais là, il n'y a pas d'impact possible parce que la demande, elle vient de l'extérieur. Et donc, il n'y a plus que l'investissement. Mais l'investissement représente 58% du PIB. Ça veut dire que les montants pour pouvoir maintenir ce rythme de 8% deviennent de plus en plus astronomiques. Et donc, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et donc là, on se trouve coincé, c'est-à-dire que l'État a conscience qu'on a une accumulation de mauvaises créances et donc n'a plus la possibilité de refaire la même chose. Donc ils vont essayer par tous les moyens, et pour vous dire à quel point, là encore dans la manipulation des chiffres, puisque les Chinois ont dit que maintenant la production industrielle n'était pas significative parce que l'intensité énergétique était en train de baisser, ce n'est plus un chiffre à suivre. Pourquoi ? Parce que le chiffre est en train de baisser fondamentalement. Et alors la prise de relais de la demande intérieure, qui est attendue par tout le monde.
Oui, depuis longtemps.
Ce n'est qu'un discours, puisque pour que la demande intérieure puisse prendre le relais par rapport à l'offre, il faudrait que les Chinois aient les moyens de pouvoir consommer. Et il faudrait que les Chinois puissent se projeter dans l'avenir avec un système de sécurité sociale qui leur permettrait de taper sur cette épargne colossale. Et qu'est-ce qu'on constate ?
Pour l'instant,
on constate
que
d'une part, la consommation des ménages ralentit fortement, et c'est assez impressionnant ces derniers temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont en difficulté, et donc vous avez des licenciements qui sont en train de se faire. Et donc contrairement tout le discours en bien, le poids de la consommation des ménages est uniquement 35%.
Donc on ne pourra pas avoir ce relais de consommation intérieure, moins d'exportation, plus de consommation intérieure, tel qu'imaginé.
Voilà. Et alors là-dessus se rajoute, dans cette hyper-financiarisation de l'économie, la constitution de ce qu'on appelle un shadow banking, comme on l'a eu avec les subprimes, comme on l'a eu avec la titrisation d'une certaine façon. Pour l'année 2011, le shadow banking, qui finançait donc le privé, puisque le privé a du mal à avoir accès à l'épargne, au financement public, représentait 45%. Et là, vous êtes dans un système complètement opaque, et se rajoute le phénomène de sans contre-pouvoir, c'est-à-dire que les gens, individuellement, font un peu ce qu'ils veulent. Donc on est dans une tendance qui est extrêmement inquiétante.
Pourquoi, de votre point de vue, et ce sera peut-être le mot de la fin, on voit les investisseurs, on voit, c'est pas majoritaire cette théorie de dire que la Chine finalement va s'écrouler comme les États-Unis se sont écroulés, très peu de personnes voyaient les États-Unis s'écrouler avant 2008, et le reste du monde non plus d'ailleurs. Aujourd'hui, voir la Chine s'écrouler, pourquoi ça n'a pas plus d'écho, on va dire.
Alors, d'abord, la problématique d'une bulle, c'est que vous savez que vous avez une bulle lorsque la bulle éclate. Et en général, les bulles durent beaucoup plus longtemps qu'annoncé. Troisième chose, vous êtes dans un système où la communication est très importante, et donc on croit toujours tout ce que disent les Chinois, alors que les chiffres sont manipulés. Et donc, lorsque vous annoncez quelque chose beaucoup trop tôt, vous êtes inaudible, c'est-à-dire personne ne vous écoute, c'est même pas la peine d'en parler. Et donc là, le timing, pourquoi? Parce que les choses sont en train de se renverser et il commence à y avoir une prise de conscience, pas uniquement au niveau des spécialistes, mais qui sont encore minoritaires, mais au niveau des hommes politiques. C'est-à-dire que la thématique pays émergents, la thématique chinoise, commence à être au centre des débats, sachant que de l'autre côté de la planète, ce sont des gens qui ne respectent aucune règle. Et donc, on commence à avoir des mesures de rétorsion qui sont annoncées. Et sachant que dans ces crises successives, les hommes politiques ont été éliminés. On aimait bien la Chine lorsque la Chine exportait sa déflation. Là, la Chine exporte ses problèmes. Je recitais juste un dernier chiffre pour montrer la formidable bulle qui est dans l'investissement. C'est que la consommation de matière tout compris, représente 8 kilos par unité de PIB créée. La moyenne mondiale, c'est 1 kilo. Alors on se dit, oui, mais c'est un pays émergent. Et si vous le comparez par rapport à l'Inde, vous êtes à 4 kilos. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'orgie qui s'est constituée. Et je vous le redis, la Chine, c'est une grande Espagne. C'est du béton, mais pas du béton fait dans le sens où l'économie est solide, mais c'est du béton friable.
Eh bien, on suivra ça. En tout cas, donc la Chine, une bombe à retardement, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez écrit avec Pierre Sabatier, Jean-Luc Buchalet, donc cofondateur de PrimeView.
Merci.